cœur pour cet encouragement. Silvio, vous entendez? Silvio? Vous entendez? Oui? Merci pour ton jugement. Et nous avons l'espérance de la gloire. Nous te louons pour cette lumière merveilleuse et aussi pour le chant que nous venons de chanter. Je crois que nous apprécions tous ce chant spécialement dans le contexte de ces passages. Et nous chantons véritablement avec joie. J'aime Sion plus que jamais auparavant. Nous apprécions cette ville merveilleuse. Ce n'est pas seulement une ville, c'est une ville glorieuse, céleste. Et dans Apocalypse, il est dit que cette ville a la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de gloire. C'est pourquoi le Seigneur doit tellement travailler en nous. Nous ne devons pas penser qu'il ne doit pas œuvrer en nous. Quoique nous parlions de jugement, toutefois, nous chantons avec joie. N'est-ce pas un miracle? Ce n'est que le Seigneur qui peut faire cela. Nous devons le louer, le célébrer. C'est un Dieu merveilleux. Il nous faut continuer. Les chapitres 36 à 39 ne sont qu'une insertion, une parenthèse. Bien sûr que cette parenthèse n'est pas sans signification. Toutes les Écritures ont une telle signification. Et c'est un rapport historique du roi Ézéchias. Le Seigneur aimerait nous dire quelque chose du roi Ézéchias. C'est parce qu'il s'agit d'une parenthèse. Nous ne voulons pas trop parler de cela. C'est pourquoi je n'ai pas non plus noté tous les détails. C'est pourquoi il n'y a pas de sous-point. Parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Toutefois, vous pouvez lire le récit historique dans Chronique. La 14e année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. C'était une armée puissante. Chapitre 36, Ésaïe, en fait. Et ici, nous voyons que Satan, il veut toujours détruire Juda et Israël. Nous devons tous avoir cette conscience. Et c'est pourquoi nous devons toujours venir vers le Seigneur. Le Seigneur seul peut nous protéger. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas défendre cette ville. Il était un bon roi, il n'était pas comme son père. Il était différent de son fils Manassé.
Ahaz et Manassé, son fils,
Il s'est trouvé coincé au milieu de son père et de son petit-fils. Nous voyons qu'un mauvais père a eu un bon fils et le contraire. On ne peut pas simplement transmettre plus loin à la prochaine génération. C'est égal si Hizkia était un bon roi, Ézéchias donc. L'ennemi est trop fort. L'armée des Assyriens. Il y avait une immense armée qui venait d'Assyrie. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu se désigne comme le roi des armées. Si l'armée de Sennacherib est tellement grande, alors l'armée de Dieu est bien, bien plus grande. C'est le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Et souvent, nous avons oublié que notre Dieu est si puissant. Dieu est un Dieu merveilleux. Et nous ne devons plus oublier ce nom. Il est Javé. C'est l'Éternel des armées. Même si Ézéchias était un bon roi, il n'était pas possible de combattre cette grande armée. Et nous voyons, ils essaient de discuter avec Sennacherib, roi d'Assyrie. Ça ne sert à rien. Eliakim était un administrateur fidèle. Il y avait aussi Shebna. On ne sait pas si c'est le même Shebna ou non, on ne sait pas trop. C'est au verset 3. Alors Eliakim, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joa, fils d'Azaph, l'archiviste. C'est égal qui nous voulons envoyer, mais nous ne devons pas discuter. On ne doit pas essayer de discuter avec Satan. Tu ne peux rien faire. Et verset 4. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Ils ont essayé de négocier. Mais ce sont des paroles en l'air. Ça ne sert à rien. Parfois, nous pensons qu'ils sont raisonnables et que ça devrait être possible de discuter avec eux. Entre-temps, j'ai appris à ne pas trop discuter, à ne pas trop parler, seulement à la conférence. À d'autres moments, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous ne parlons que la parole du Seigneur, et ça, c'est important. Nos lèvres ne doivent dire que la parole du Seigneur et pas des sottises, pas des paroles inutiles, pas des négociations humaines, pas de discussions. Oh, nous voulons parler les uns avec les autres. Discutons ensemble. Cela ne sert à rien. Plus tu parles, plus tu vas préparer des difficultés. Et c'est pourquoi
Du sagst, du hättest Rat und Macht zum Krieg. Auf wen vertraust du denn?
Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé. Celui qui... qui prend pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 6. Peut-être me diras-tu, verset 7, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? C'est égal, quelle raison tu donnes, l'Égypte, l'autel, peu importe. Quelle est la raison que tu donnes? Ça ne signifie rien pour l'ennemi. Ce sont des paroles inutiles. Cela ne le touche pas. C'est pourquoi nous devons apprendre. Pour toute chose, lorsque l'ennemi essaie de faire quelque chose, il aimerait détruire Sion. Notre aide, nos négociations, etc., ça, ce n'est que des paroles inutiles. Ce ne sont que des commérages pour l'ennemi et cela ne sert à rien. Nous devons connaître l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées parce que son armée était tellement grande. Son armée ne consiste pas seulement des anges, mais de toute la création. C'est toute l'armée céleste, le soleil, la lune. Dieu, il peut tout utiliser pour tout détruire, pour détruire la terre. C'est pourquoi il y a des tremblements de terre et il y en a toujours de plus en plus parce que ils s'exercent. Ils savent que leur chef va bientôt donner la commande de secouer la terre entière. Nous voyons que toute la création est en fait son armée. Verset 8. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. 2000. Si tu peux fournir des cavaliers pour les monter, ils se moquent. Qu'est-ce qu'on va faire avec 2000 chevaux? Ça veut dire qu'ils se sont moqués de ces personnes. Ils ne pouvaient même pas trouver des cavaliers pour 2000 chevaux. C'est comme cela que l'ennemi nous observe. Nous sommes comme des sauterelles pour eux. Eux, ils sont les géants, comme au temps de Caleb et de Josué. Comment vas-tu combattre contre eux? Nous sous-estimons l'ennemi. Nous ne savons même pas qui est l'ennemi. Paul n'a-t-il pas dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les puissances invisibles et nous ne les voyons pas? Etc. Verset 11. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille.
Ach, was egal.
Si tu parles avec eux, tu vas perdre. Alors, dans ce cas-là, apprends à ne pas trop discuter avec l'ennemi. C'est bien comme cela. C'est bien que tu n'aies pas trop parlé. Rabshakeh, verset 13, savons ça, et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Vous pouvez lire tous ces versets vous-même. Ainsi parle le roi, verset 14, je pense, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera. Verset 18, qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Où sont les dieux? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Si toi tu donnes des raisons, des explications, ils en auront encore plus. Mais ils se turent, verset 21, et ne lui répondirent pas un mot. À ce point-là, à ce moment-là, c'est mieux de se taire. Ils se turent et ne lui répondirent pas un mot. Ils ont aussi appris. Ils ont appris à ne pas dire grand-chose. N'essaie pas de répondre. Non, ça n'aide pas. Car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Aza, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Ils étaient sans espoir. C'était inespéré. En fait, ils n'avaient pas besoin de déchirer leurs vêtements. Mais si nous parlons beaucoup, nous avons peur, nous n'avons pas d'espoir, rien ne peut être fait, alors tu déchires tes vêtements. Tu es vraiment sans espoir, frustré. Nous ne devons pas faire cela. Chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Si tu viens avec un tel rapport, Ézéchias va déchirer aussi ses vêtements. Nous nous influençons et à la fin, tout le monde pleure. Tous pleurent. Ce n'est pas bien. Alors, ils sont allés vers le prophète Ésaïe. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça aurait été mieux qu'ils fassent cela tout au début. Ils auraient eu moins de problèmes et ils auraient moins pleuré, ils auraient moins déchiré les vêtements. Ils se seraient épargnés tout cela. Nous nous préparons souvent beaucoup de difficultés et c'est aussi très bien que nous puissions apprendre de cette histoire.
Und sie sprachen zu ihm, so spricht es dir, dein Tagelohn.
Le verset 3, je pense. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Si on n'a pas de telles difficultés, on ne va pas se tourner ainsi vers le Seigneur. Si tout va bien pour toi, tu n'as pas tellement besoin du Seigneur. Mais si tu te trouves dans une situation désespérée, il y a tellement de négociations, tellement de paroles, rien ne fonctionne. Alors c'est seulement tout à la fin de tout cela, lorsque tu n'as plus de sortie, que tu vas vers le Seigneur. Souvent, c'est comme cela. Sinon, tu vas aller vers un frère, tu demandes pour un conseil, tu poses des questions, et moi, je te donne des conseils, mais c'est des mauvais conseils. Et tout le monde est sans espoir, et on commence à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu es désespéré. Ensuite, tu viens vers lui. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller d'abord vers le Seigneur? Ensuite, si nous faisons comme cela, nous allons nous épargner beaucoup de difficultés. J'ai pensé que Dieu était aussi le Dieu d'Ézéchias. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Nous devons vraiment voir ce que fait l'ennemi. Ce n'est pas seulement contre nous, mais en cachette, ils méprisent Dieu, ils insultent Dieu. C'est pourquoi, au temps de Job, Dieu, il a lancé un défi à Satan. Et Satan a donné tant de raisons. Oh, bien sûr que Dieu t'aime et Dieu t'a tout donné. Alors, c'est pour cela que tu es fidèle envers lui. Ça, c'est vraiment une insulte. Tu insultes le Dieu vivant. Dieu t'a tellement donné, alors c'est pour cela que tu es fidèle envers lui. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore, verset 4. Il aurait dû connaître Dieu. Vous pouvez lire vous-même tous ces chapitres. Et Dieu a détruit l'armée de Sennacherib. C'est très facile pour Dieu. Il peut détruire une armée. Et il a sauvé Sion. Il a sauvé Sion à cause de Sion. Si tu luttes tout seul, tu vas perdre. Tu n'y arrives pas.
Amen. Lobe den Herrn. Gehen wir dann weiter.
On continue. Vous pouvez lire tous ces chapitres vous-même. Maintenant, le chapitre 38. Ésaïe 38. La première expérience était bonne. Dieu, il a combattu pour son peuple. Malheureusement, souvent, nous n'allons pas d'abord vers le Seigneur. Nous attendons. Non, maintenant, c'est le chapitre 37, verset 36. L'ange de l'Éternel sortit. Combien d'anges? Un seul. L'Éternel des armées n'envoie qu'un seul ange. Ça suffisait pour Dieu. Il n'y a pas de gloire si Dieu doit envoyer 10 000 anges ou 100 000 anges. Dieu n'a besoin que d'un seul ange. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes en une nuit. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Il n'y avait que des cadavres. Qui doit combattre, toi ou Dieu? Est-ce que tu peux faire cela en une nuit? Est-ce que tu peux tuer 185 000 hommes en une nuit? Nous ne pouvons pas le faire. Mais c'est si simple pour Dieu. Un ange suffit. Dieu a certainement pas envoyé l'ange le plus fort. Comme cela, il pouvait montrer encore plus sa gloire. Peut-être a-t-il choisi l'ange le plus faible. Vas-y. Il se réjouit à ce que tu puisses t'exercer. Un ange. On ne sait même pas le nom de cet ange. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, verset 37, partit et s'en retourna. Et ici nous avons le résultat. Or, comme il était prosterné dans la maison de son Dieu, ses fils le frappèrent par l'épée. C'est fini. Il n'existait plus. Dieu utilise un ange pour détruire toute une armée et il utilise ses propres fils. Lorsqu'il est rentré à la maison, ses fils l'ont tué. N'est-ce pas une bonne solution? Qui peut trouver une meilleure solution? Connaissons-nous ce Dieu merveilleux qui combat pour nous aujourd'hui? Qui combat? Qui peut résoudre ce grand problème? Si Dieu peut résoudre un si grand problème de manière si sage, il a tout détruit, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi résoudre ton petit problème? Aujourd'hui, j'aimerais apprendre à ne pas combattre par moi-même, à trouver une solution. Nous apprenons du roi Ézéchias. Et ensuite, nous avons la guérison. Chapitre 38, en fait, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas plus. C'était la parole de Dieu. Mais Ézéchias ne voulait pas accepter cela. Il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il répondit d'abondantes larmes. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il l'a guéri. C'est merveilleux. Dieu peut tout faire. Bien sûr, c'était une maladie physique. Mais lorsque nous avons une maladie intérieure, nous ne pleurons pas autant. Mais lorsqu'on a une maladie physique, alors je pleure. Oh Seigneur, tu dois me guérir. Je veux rester vivant. Mais si j'ai une maladie intérieure, je ne vais pas autant pleurer. Cela m'est égal s'il me guérit maintenant ou plus tard. Et j'ai une bonne excuse. Je suis simplement comme cela. Je suis comme cela. C'est une bonne excuse. Mais si j'ai une maladie physique, alors je suis tellement désespérée et je demande au Seigneur de me guérir. C'est comme ça. Je ne suis pas contre la guérison. Je me réjouis si nous restons tous en bonne santé. Et j'encourage tous les frères et sœurs, spécialement dans les derniers temps, à ce que nous restions en bonne santé jusqu'à sa venue. Où suis-je? Où est-ce que j'ai atterri? Verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ça, c'est merveilleux. Voyez-vous, il va protéger la ville. Qui combat? Qui protège? Si nous pensons que c'est notre responsabilité de protéger Sion, alors Dieu, il envoie un autre roi. Et le Seigneur lui a donné un signe. C'est un signe merveilleux. Voici le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Pourquoi Dieu doit-il donner à Ézéchias un signe? Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Quand as-tu besoin d'un signe de Dieu, c'est quand tu ne crois pas. Souvent, nous prions, nous demandons à Dieu. Dieu, il dit, je vais te guérir, mais tu ne le crois pas. Et c'est pourquoi que Dieu doit te donner un signe spécial afin que ta foi soit fortifiée. Avons-nous besoin d'un signe? Est-ce que tu as besoin d'un signe? Oui. Les étoiles. Mais ce signe est un vrai signe. Il y a bien des années, et les astronomes peuvent aussi dire cela, bien sûr qu'ils ne le disent pas vraiment de manière scientifique, mais c'est prouvé. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue. Qui peut faire cela? Est-ce que tu peux donner un ordre au soleil? Retourne en arrière, recule. Recule de 10 degrés. Peux-tu faire cela? Personne ne peut faire cela. J'ai découvert ça il y a des années, que ce fait est vrai. Ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire, le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Ça s'est passé exactement comme c'est écrit ici au verset 8. « On lui a donné 15 ans de plus. Mais savez-vous ce qu'Ézéchias a fait pendant ces 15 années? Il est devenu orgueilleux. Il a bâti des villes. Il a rassemblé beaucoup de richesses. Il était tellement riche qu'il est devenu orgueilleux. Un frère dit, ça aurait été mieux qu'il meure avant. Nous voyons les choses autrement que Dieu. Nous supplions Dieu de prolonger notre vie, mais à la fin, s'il prolonge notre vie, c'est peut-être pas mieux. Si le Seigneur prolonge ta vie, alors tu dois racheter le temps pour saisir le Seigneur encore plus. Si Ézéchias avait utilisé ses 15 ans pour connaître ce Dieu merveilleux, de tout utiliser pour sa gloire, il n'aurait pas dû utiliser ce temps pour lui-même. Le Seigneur t'a déjà donné beaucoup de temps. Et comment as-tu utilisé ce temps? Si tu n'as pas appris à racheter le temps pour te préparer pour sa venue, et si le Seigneur nous prolonge encore sa venue, comme Pierre l'a dit, le Seigneur, il retarde sa venue. Mais si tu n'utilises pas ce temps pour gagner le Seigneur et à la fin tu aimes de plus en plus le monde, tu es même vraiment attiré par le monde, tu fais beaucoup de choses, à la fin tu vis que pour toi-même. Alors même si le Seigneur te donne son temps, à quoi cela sert-il? C'est pourquoi il y a cette insertion ou cette parenthèse pour nous encourager. Au début, Ézéchias était un très bon roi, mais plus à la fin. Cela dépend. Je suis d'accord. Ça aurait été mieux pour lui. Après avoir vu la gloire du Seigneur, il a vu Sion si clairement, il a expérimenté l'aide de Dieu. Ça aurait été mieux qu'il meure avant. Si le Seigneur nous donne plus de temps et puis on ne monte pas mais on descend, il y a vraiment ce danger de descendre au lieu d'aller de l'avant. Et nous devons aussi apprendre cela de l'histoire d'Ézéchias. Si le Seigneur nous donne cette occasion et s'il nous donne le temps et nous ne savons pas quand il va revenir, combien de temps nous aurons encore? Comment vas-tu utiliser ce temps? Ta carrière? Est-ce que tu vas poursuivre une carrière? Est-ce que tu vas avoir beaucoup de richesses, beaucoup d'argent sur ton compte, mener une belle vie, faire des vacances, connaître le monde, faire de la varappe, jouer au football? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est pas bien. Alors Dieu a de nouveau envoyé quelqu'un. Qui a-t-il envoyé? Un ambassadeur. Un ambassadeur du roi de Babylone. Oh, Ézéchias, nous avons entendu que tu as été guéri. Oh, je viens pour te féliciter. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu a fait avec toi. Mais en fait, c'était un espion et il voulait voir toutes les richesses et il voulait revenir pour les voler. Au chapitre 39. À la fin, nous sommes devenus tellement aveugles que nous ne savons pas quels sont les plans du Seigneur. Il était devenu tellement orgueilleux. Oh, Dieu m'a guéri, il m'a donné tant de richesses, etc. Et il a montré à cet ambassadeur seulement un peu, tout. Tout. Il lui a tout montré. Apprenez à ne montrer tout aux autres. Si quelqu'un est orgueilleux, il va tout montrer. Oh, regardez combien je suis riche. Oh, le Seigneur nous a bénis. Regardez ce que nous avons. Après, Ésaïe est venu. Qui t'a rendu visite? Oui, l'ambassadeur de Babylone. Ah. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ça, c'était la deuxième question d'Ésaïe. Qu'ont-il vu dans ta maison? Ézéchias a répondu. Ils ont tout vu. Il y avait tout de suite le jugement. Le roi de Babylone viendra et il va tout emmener à Babylone. Et même tes fils vont être amenés à Babylone et ils seront des eunuques. Et ils vont servir comme des esclaves à Babylone. Qu'est-ce qu'Ézéchias a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh, la parole était bonne. Est-ce que c'était une bonne parole? Moi, j'aurais hurlé, j'aurais pleuré contre le mur. Seigneur, je me repens. Mais il n'a pas fait cela. Il a osé dire, verset 8, 39, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Je ne vois rien de bon dans cette parole. Cette parenthèse est nécessaire pour nous tous. C'est déjà un avertissement pour nous tous. Le Seigneur va peut-être nous guérir, mais qu'est-ce que tu vas faire si le Seigneur te guérit? Si le Seigneur rétablit l'Église? Le Seigneur nous cherche et nous fait sortir et veut nous amener de l'avant. Mais, alors, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Le Seigneur nous a donné cette occasion merveilleuse, mais qu'est-ce que vous allez faire de cela? Est-ce que vous voulez tout gâter de nouveau? Est-ce que vous n'appréciez pas cela? Est-ce que nous ne voulons pas profiter de cette occasion? Nous voulons apprécier cela. Nous voulons gagner encore plus du Seigneur. Si nous avons 5 talents, nous voulons les multiplier et avoir 10. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne voulons pas gaspiller ce que nous avons. Et nous nous reposons. Oh, louez le Seigneur. Il nous a fait sortir de Babylone. Et maintenant, je peux me reposer. Je peux simplement remercier, je peux louer, je peux aller de l'avant, gentiment, peu à peu. Alors tu es comme Ézéchias. Alors tu es Ézéchias. Ça, c'est cette parenthèse, cette insertion. Il existe danger pour nous tous. Le Seigneur nous a fait sortir. Il nous a séparés comme un petit reste. Pas afin que nous nous reposions. Pas que nous ayons quelque chose pour nous-mêmes et qu'on fasse ceci ou cela, mais bien plus. On doit être zélé. On doit vraiment être zélé. On doit être zélé pour aller de l'avant jusqu'à ce que nous soyons enlevés. C'est ça le sens. Si nous sortons de Babylone et que nous n'allons pas de l'avant, les gens qui sont sortis de Babylone à Jérusalem sont de nouveau tombés. Ils n'ont pas profité de cette merveilleuse grâce pour aller de l'avant. Et combien c'est notre cas. Le Seigneur nous a aidés dans cette difficulté. Il t'a guéri. Il a résolu tes problèmes. Mais après que le problème est résolu, est-ce que tu vas de l'avant ou est-ce que tu tombes de nouveau dans un autre problème? Le Seigneur nous a aidés dans ce cas-là, pas afin que nous retombions de nouveau. La parenthèse est nécessaire. Cette parenthèse est nécessaire. Le Seigneur nous avertit, il aimerait nous aider, il nous encourage, il nous exhorte par Ézéchias. Alors, ils n'ont pas encore sonné pour le repas. La parole du Seigneur est bonne, car il a même donné une raison, verset 8, chapitre 39. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Il s'occupait que de lui-même. Tout tournait autour de sa personne. Ce n'est pas bien. Il ne s'occupait pas de ses fils qui avaient été emmenés à Babylone, qui sont devenus des esclaves, qui étaient des eunuques. Est-ce que toi, tu dirais, « Oh, ça ne va pas arriver à mes fils. » C'est égal si vous partez, si je vais bien, moi. C'était égoïste. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre et voir beaucoup dans la parole de Dieu. Que cette parole puisse œuvrer dans nos cœurs. Louez le Seigneur pour une telle parenthèse, insertion. Chaque parole de Dieu est inspirée de Dieu et est utile, très utile même. Louez le Seigneur. On s'arrête ici.
Amen.
On va chanter encore un chant.